La métamorphose, ce n'est pas l'apanage juste des insectes ou des amphibiens. L'homme peut lui aussi se métamorphoser. Qu'est-ce que tu nous racontes là, Joël? Oui, l'homme peut se métamorphoser. Il s'agit, bien évidemment, d'une métamorphose intérieure, d'un changement intérieur. À part la vieillesse, l'âge qui passe, on reste comme on est, hein. On a beau, on peut s'arranger, on peut, mais l'homme reste tel que l'on est né, tel que l'on est né. Nous, on ne se métamorphose pas de l'intérieur. Mais l'homme peut subir une métamorphose intérieure et spirituelle qui va se remarquer aussi bien que si c'était une métamorphose physique. Vous aimeriez pas vous transformer en papillon? Ah, ça vole quand même, c'est chouette, hein? On va lire dans la Bible le récit d'une métamorphose. Il s'agit de la métamorphose de Saul. Je vous invite à venir avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 1. Actes 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. On va sauter les prochains versets. En fait, Dieu apparaît à Ananias et lui demande d'aller voir Paul. On va reprendre la lecture à partir du verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Nous allons lire une autre version de ce récit, parce qu'il apporte quand même quelques précisions importantes. C'est Saul qui parle et qui raconte ce qui lui est arrivé au moment où il est arrêté. C'est dans Actes au chapitre 22 et au verset 1. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit: Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, Vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvris la vue et je le regardai. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Amen. Saul respire la menace et le meurtre. Moi, en tant que chrétien, je n'aurais pas aimé le rencontrer. Hein. Quelqu'un qui respire la menace et le meurtre, tellement qu'il a ça en lui, ça se voit sur son visage, ça se manifeste par des actions. Pour Saul, ce Jésus n'est pas le Messie. Pour Saul, ce Jésus est un imposteur. Comment cet homme mort sur une croix pourrait-il être le libérateur qu'il attend ? Comment cet homme mort sur une croix pourrait-il être celui qui était venu pour délivrer les hommes ? Lui, il est furieux qu'on puisse le croire. Et il veut détruire les disciples de Jésus pour les empêcher de répandre ce qu'ils pensent être une fausse doctrine. Pour lui, les disciples de Jésus sont des hérétiques. Pour lui, les disciples de Jésus sont des menteurs. Il a déjà participé à l'arrestation des disciples de Jésus à Jérusalem. Et maintenant, il veut s'en prendre à ceux qui se trouvent à Damas, parce que certains des disciples de Jérusalem sont allés se réfugier dans cette ville. Damas est aussi une grande ville. Et Paul veut absolument empêcher que le christianisme se répande, que cette nouvelle, que le fait que Jésus est le Fils de Dieu, mort sur la croix pour les péchés des hommes, soit annoncé et proclamé. Pour Saul, Jésus est un imposteur. Pour Saul, Jésus n'est qu'un homme venu mourir sur la terre, simplement mort sur une croix. Qui est Jésus pour vous ? Pour vous, Jésus, qui c'est ? Une réalité historique ? Parce que Jésus, la venue de Jésus sur terre n'est pas remise en cause. Jésus est bienvenu, il est bien né, vous pouvez ouvrir votre petit Larousse à Jésus et on vous expliquera que c'est quelqu'un qui est né il y a environ 2000 ans, qui a vécu et qui est mort sur une croix. Qui est Jésus pour vous ? Quelqu'un qui a existé, qui est mort ? Qui est Jésus pour vous ? Le fondateur d'une religion ? Le fondateur du christianisme ? Comme Mahomet est le fondateur de l'islam ? Comme Siddhartha Gautama est le fondateur du bouddhisme ? Qui est Jésus pour vous ? Pour Paul, Jésus, c'est un imposteur. Et il agit en fonction de sa conviction. Il agit en fonction de ce qu'il pense. Il combat cette idée. Saul pense servir Dieu en faisant cela. Saul pense servir Dieu avec zèle. Saul, nous l'avons lu, il a étudié au pied de Gamaliel, le docteur de la loi, le plus grand professeur de Jérusalem. Il connaît la loi par cœur. Il étudie l'Ancien Testament. Certainement, il prie beaucoup. Il connaît la loi juive par cœur. Et pourtant, il n'a pas compris qui est Jésus. Pourtant, il n'a pas compris qu'en luttant contre Jésus, il ne sert pas Dieu. Bien au contraire, il s'oppose à lui. Saul s'oppose à Dieu en faisant cela. C'est grave de s'opposer à Dieu. Et Saul n'est pas le seul à s'opposer à Dieu. La Bible nous apprend que chacun d'entre nous, nous sommes des ennemis de Dieu. Avez-vous conscience d'être ennemi de Dieu? On va le lire. Colossiens, chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. L'état de base de l'homme, ce qu'il est au départ, c'est étranger et ennemi de Dieu. Ça nous est aussi dit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Lorsque nous étions ennemis. Que nous disent ces deux passages? Ces deux passages nous disent que, avant que nous soyons réconciliés avec Dieu, si nous ne sommes pas réconciliés avec lui, eh bien nous sommes ses ennemis. Le fait même de ne pas prendre position, le fait même de ne pas vivre la réconciliation avec Dieu, fait de nous des ennemis. Alors on ne peut pas dire, moi je ne suis pas ennemi, moi je fais rien. Non, si on n'est pas réconcilié avec Dieu, nous sommes ses ennemis. Pourquoi sommes-nous les ennemis de Dieu? Pourquoi la Bible dit que nous combattons Dieu? Parce qu'avant d'être réconciliés avec lui, eh bien, nous ne nous occupons pas de ses affaires. Nous lui désobéissons. Nous menons notre vie sans nous occuper de lui, sans nous occuper de ce que lui a prévu, sans nous occuper de ce que lui veut que nous fassions, sans nous occuper de ce que lui pense de nos actions. Nous faisons ce que bon nous semble, nous. Nous faisons ce que nous avons envie de faire. Nous faisons ce qu'il nous semble juste, nous. Et en faisant cela, en nous comportant de cette façon, nous sommes ennemis de Dieu. C'est grave, hein, être ennemi de Dieu. Il faut en avoir conscience. Parce qu'en agissant de cette façon, en agissant comme bon nous semble, en faisant ce qui nous semble, nous, juste, nous lui désobéissons. Nous sommes malhonnêtes, nous sommes voleurs, nous sommes envieux, nous sommes violents, nous sommes incrédules, nous sommes idolâtres, nous sommes orgueilleux. Le moindre petit péché que nous accomplissions, la moindre petite désobéissance, on pourrait se dire, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, une petite erreur, une petite désobéissance, c'est pas grave, ça porte pas à conséquence. Eh bien si, ça a une conséquence terrible, celle de nous séparer de Dieu, celle de faire de nous des ennemis de Dieu, des ennemis du Créateur du ciel et de la terre. En péchant, en ne faisant pas ce que Dieu nous demande, nous luttons contre lui. Alors quand nous lisons la vie de Saul, quand nous lisons ce qu'il va faire, ce qu'il a fait, il est flagrant que Saul a besoin de pardon, que Saul a besoin de transformation. Ce qu'il s'apprête à faire vis-à-vis des chrétiens de Damas, c'est terrible. Il respire la menace et le meurtre. S'il les attrape, il va les arrêter, il va les emprisonner, peut-être même il va les tuer, les exterminer. Saul a besoin de pardon, de réconciliation avec Dieu. Mais comme chacun d'entre nous, Saul, même si ce qu'il fait paraît terrible, même si vous, vous êtes bien loin de cela, même si vous, vous n'avez jamais tué personne, même si vous avez plutôt tendance à aimer vos prochains, vos collègues de travail, le moindre petit péché fait de vous des ennemis de Dieu. Le moindre petit péché vous sépare d'avec Dieu. Celui qui veut passer l'éternité avec Dieu doit être réconcilié avec lui. Sinon, c'est une impossibilité. Alors Saul, il ne peut pas aller tout seul comme ça à Damas pour emprisonner et réduire à néant les disciples de Jésus. Alors en premier, il se rend près du souverain sacrificateur pour obtenir des lettres de lui, des ordres de lui. Le souverain sacrificateur, c'est le plus haut dignitaire religieux de l'époque. Et il obtient ces lettres. Alors, Jérusalem-Damas, c'est un voyage de 250-300 kilomètres. C'est long, hein ? À l'époque, l'avion n'existe pas. Il va s'y rendre à dos de mule ou à dos d'âne. Le voilà parti pour ce grand voyage. Alors, il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui viennent avec lui. Et tout à l'heure, je disais que ce que veut faire Paul est terrible parce qu'il y a un précédent. Étienne, disciple de Jésus, a été lapidé. Lapidé, c'est lorsqu'on jette des pierres sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure parce qu'il a osé dire que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il a osé dire qu'il était ressuscité et qu'il le voyait à la droite du Père. Parce qu'il a osé dire cela, Étienne a été lapidé par les religieux, par les pharisiens. Et Saul a participé à cela. Il a approuvé, il n'a pas jeté de pierre, mais en approuvant, il a participé à cela. C'est lui qui portait les habits de ceux qui jetaient des pierres sur Étienne, et Étienne est mort. Et les voici donc en route pour Damas. Et tout à coup, vers midi, au moment où le soleil est à son zénith, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas l'heure d'été, l'heure d'hiver, hein, l'heure c'est l'heure solaire, à midi, voici qu'il y a une lumière resplendissante qui apparaît. Donc quelque chose d'incroyablement lumineux, de plus lumineux que le soleil du midi. Si ce n'est pas plus lumineux, il ne l'aurait pas vu. Voici qu'il y a une lumière incroyable qui resplendit autour de lui. Et cette lumière va aveugle Paul, le terrasse complètement. Il en tombe par terre, tellement que cette lumière est écrasante. Et il entend une voix lui parler. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est incroyable ce qui se passe quand même. D'un coup, Saul est confronté au Jésus ressuscité. Comment est-ce qu'un mort pourrait lui parler ? « Je suis Jésus que tu persécutes. » Comment est-ce que, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, il pourrait s'adresser à lui comme cela, sans qu'il puisse le voir ? Comment, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, il pourrait l'écraser de sa lumière, de sa sainteté ? Paul est confronté soudain à ceux qu'il combat. Paul est confronté soudain à ceux qu'il refuse de croire. Il est écrasé par la vérité que Jésus est bien le Christ, qu'il est bien le Fils de Dieu. Paul est confronté à la véracité du message de l'Évangile. Alors la conversion de Saul est particulière, hein. Moi je ne connais personne d'autre qui se soit converti de cette façon et à qui Jésus soit apparu ainsi. Mais peu importe, L'important, c'est de se convertir. L'important, c'est que Jésus nous arrête sur notre chemin de perdition. L'important, c'est que Jésus nous arrête lorsque nous sommes sur une voie qui nous mène à notre perte, qui nous éloigne de lui. La conversion, ça peut aussi se passer tout doucement. Ça peut aussi se passer un dimanche après-midi, comme ça. Un dimanche après-midi, comme ça, Dieu peut nous interpeller, Dieu peut nous faire comprendre que, ah oui, mais j'avais rien compris. J'avais rien compris finalement, mais c'est vrai. Jésus, c'est bien le Fils de Dieu. Mais c'est vrai, Dieu, en fait, il s'occupe de moi. Dieu, il me connaît. Dieu, il m'aime. Ça peut aussi se passer comme ça cet après-midi. Et si on faisait rendre témoignage cet après-midi à tous ceux qui ont rencontré Jésus, à tous ceux qui ont compris que Jésus, c'était le Fils de Dieu, eh bien, on aurait des versions complètement différentes. Autant de personnes, autant on aurait de témoignages qui diraient, ben oui, moi, Jésus, voilà, j'ai compris ça tel jour, à tel âge, à telle époque, moi, j'ai compris ça de telle façon. L'important, c'est de le comprendre. L'important, c'est de laisser Dieu agir. L'important, c'est de le laisser faire. L'important, c'est de le rencontrer. Qu'on soit sur le chemin de Damas, qu'on soit ici, qu'on soit au travail, peu importe. L'important, c'est de le rencontrer avant qu'il ne soit trop tard. L'important, c'est de le rencontrer sans remettre cela à demain. C'est Dieu qui choisit le moyen de nous interpeller. N'attendez pas une révélation particulière. N'attendez pas quelque chose d'écrasant comme Paul. Parce que si Dieu n'a pas décidé de se révéler à vous comme ça, vous risquez de passer à côté et d'attendre longtemps. Ce serait terrible. C'est Dieu qui choisit le moyen de nous interpeller. Voilà que Saul, une fois que c'est terminé, il va se relever de terre. Et il va rester 3 jours sans voir, sans boire et sans manger. C'est pas rien quand même. 3 jours sans voir. Il devait se demander, mais peut-être est-ce que je ne reverrai plus jamais. Et c'est quelque chose qu'il a tellement bouleversé, c'est incroyable ce qui lui arrive. Il a entendu Jésus lui parler personnellement. Ça le bouleverse tellement, ça l'a tellement interpellé qu'il ne va plus manger, qu'il ne va plus boire pendant 3 jours. Et il va prier Dieu pendant ce moment-là. Et Dieu va lui parler. Saul, la chenille, est en train de devenir chrysalide. Vous avez remarqué dans ce que nous avons vu, la chenille, elle se nourrit, elle se déplace. Et au moment où elle devient chrysalide, ce qui précède à la transformation, la chenille cesse toute activité. C'est ce qui est en train de se passer pour Paul. Il cesse toute activité. Il n'est plus capable de rien faire. Il prie, il réfléchit, il rentre en lui-même. Il essaye d'assimiler ce qu'il vient de vivre. Et dans son esprit, il se dit, mais Jésus est vivant. Il est réellement le Fils de Dieu. Et chose incroyable, il a pris la peine de m'arrêter. Moi, j'allais arrêter les disciples et Jésus en personne a pris la peine de venir m'arrêter. Il me connaît par mon nom, Saul, Saul. Il n'a pas dit, toi là-bas, machin, truc. Non, Saul, Saul. Jésus a pris la peine de venir m'arrêter dans la folie que j'allais commettre. Il a pris la peine de venir me voir. Je me suis trompé sur toute la ligne. Saul accepte. J'ai tout faux. Tout ce que je croyais, c'est faux. Tout ce que je faisais, c'est faux. Je combattais Dieu. Je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je suis son ennemi. C'est terrible. Et alors Saul se soumet. Nous l'avons lu dans le récit que lui fait de la scène. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est la question qu'on doit tous se poser cet après-midi, si on n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Dieu, cet après-midi, veut vous arrêter, Dieu, cet après-midi, veut vous interpeller. Qui est Jésus pour toi? Il faut que tu lui poses cette question. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu est un Dieu saint, parfait et pur. Et nos péchés nous séparent de lui. Le moindre petit péché que tu aies pu accomplir, ça te sépare de Dieu. Ça fait de toi son ennemi. Ça te prive de sa présence pour l'éternité. Il n'y a pas de salut pour toi parce que tu es un pécheur. Dieu ne peut accepter le péché. Il ne le supporte pas. Mais Dieu t'aime. Et il t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix à ta place. Dieu nous aime tellement qu'il a solutionné ce problème, qu'il peut combler ce mur, ce vide, ce gouffre infranchissable qui te sépare de lui. Jésus est mort sur la croix à ta place. Jésus, c'est Dieu fait homme. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean 1, 29. Jésus, c'est justement le seul à avoir foulé sur cette terre et qui n'a jamais péché. Jésus, c'est le saint, c'est le parfait. Et pourtant, il est mort. Pourtant, c'est lui qui est mort, injustement. Parce que la mort, c'est le salaire du péché. Il fallait que quelqu'un paye. Pour que nous puissions ne pas payer, il fallait que quelqu'un le fasse pour nous. Et le seul sacrifice qui pouvait fermer la bouche de Satan, le seul sacrifice qui pouvait avoir du prix aux yeux de Dieu, c'était le sacrifice de Jésus. Parce que c'est le sacrifice de l'agneau parfait, parce que c'est le sacrifice de son Fils, parce que c'est le sacrifice de celui qui donne sa vie. On ne me l'ôte pas, a dit Jésus. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est mort. Et c'est lui qui a été séparé de Dieu pour un temps à notre place. Alors si tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, si tu reconnais qu'il est mort pour toi sur la croix à ta place, que par son sang tes péchés peuvent être pardonnés, que par son sang tu peux être purifié, alors il n'y a plus de condamnation pour toi. La solution, elle est là. Si tu demandes pardon à Dieu, alors il n'y a plus de condamnation. Alors il n'y a plus de séparation pour toi. Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de dire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a cette possibilité, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 5, 18, « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Et cet acte d'acquittement, c'est Jésus qui l'a accompli sur la croix. Amen. Donc, Saul s'est relevé et il est conduit dans une maison, dans la rue droite. Il prie, il ne mange pas, il ne voit toujours pas. Et voici qu'Ananias, un disciple de Jésus, est envoyé par Saul. Et dans un premier temps, Ananias, il ne veut pas y aller, hein, parce que le Saul, il le connaît. Hein. Il sait qu'il est venu à Damas pour arrêter, pour mettre à mort des gens comme lui. Or, dans un premier temps, il ne veut pas s'y rendre. Mais néanmoins, Ananias, c'est un serviteur de Dieu, alors il se soumet et il obéit à ce que Dieu lui demande de faire. Et donc, il va voir Paul. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il va imposer les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. C'est même un peu plus plus précis dans le deuxième texte que nous avons lu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu habite désormais dans Saul et va continuer à le transformer. Saul se fait baptiser pour montrer qu'il a commencé une nouvelle vie et qu'il appartient désormais au Seigneur Jésus. Ça y est, la chenille Saul n'est plus. Le papillon sort de sa chrysalide. Physiquement, Saul est toujours le même. Mais à l'intérieur, il est complètement transformé, métamorphosé. Et cette transformation intérieure se voit à l'extérieur. Si on pouvait voir Paul à la suite de cela, certainement qu'il ne respirait plus la menace et le meurtre. Certainement, il devait respirer quoi ? La joie, l'amour, la paix, parce que Jésus avait accompli cette transformation. Saul est métamorphosé. Saul qui était venu avec l'intention de nuire aux disciples, de les détruire, est maintenant un des disciples du Seigneur Jésus. Il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et le voilà qu'il proclame dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà qu'il démontre aux Juifs que Jésus est le Messie. Ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Il est complètement changé, complètement transformé. Ce n'est plus une chenille, c'est un papillon. Amen. C'est la nouvelle naissance. Voilà ce qu'est la nouvelle naissance. C'est une recréation complète de notre être intérieur. Dieu a complètement transformé Saul de l'intérieur. Et c'est un début de processus. Ce processus se continue. Nous qui avons expérimenté cela, nous savons que nous ne devenons pas parfaits du premier coup. C'est un processus qui est lancé. Mais la transformation est bien réelle. Jésus dira à Nicodème, un pharisien venu l'interroger, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est ce qui est arrivé à Saul. Saul n'est plus, et tellement qu'il va en changer de nom. Après, on ne parlera plus de Saul, on va parler de l'apôtre Paul. Accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur et il te transformera comme il l'a fait pour Saul. Jésus peut et veut le faire. Il faut que tu sois réconcilié avec Dieu en Jésus. Sinon, tu es perdu pour l'éternité. Sinon, tu n'auras pas accès à sa présence. Sinon, tu n'auras pas accès au ciel et tu seras séparé de lui pour l'éternité. Il est impossible de se changer soi-même. Se changer soi-même est quelque chose d'impossible. Dans Jérémie, au chapitre 13 et au verset 23, il est écrit ceci. « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Ne vous y trompez pas. Si vous décidez par vous-même, « Ah bien, c'est très bien. Dieu, il veut que je sois bon. Dieu, il ne veut pas que je sois pécheur. C'est parfait, je vais arrêter. » Je vais mettre tous mes efforts, je vais y arriver, je vais m'améliorer. Non, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Non. Un léopard peut-il changer de peau? Peut-il perdre ses taches? Non. La Bible nous dit que c'est impossible. Seul Jésus peut te transformer. Seul Jésus peut te changer. Et pour cela, il faut que tu le reconnaisses comme maître et seigneur. Pour cela, il faut que tu plies le genou, que tu acceptes comme Saul. Et que tu dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je ne savais pas qui tu étais. Je n'avais pas compris. Je mène une vie sans toi. Et cela doit cesser. Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le message pour nous cet après-midi, c'est entame une nouvelle vie avec un nouveau maître. Laisse Dieu te transformer, te changer. Laisse-le faire. Il y va de ton bonheur sur cette terre. Il y va de ton salut pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre solution pour être réconcilié avec Dieu que de faire la paix avec lui en Jésus, que de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort par amour sur la croix pour toi. Amen. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons pour l'amour que tu as manifesté pour nous en envoyant Jésus mourir à notre place. Merci pour cette solution. Merci pour le jour où nous t'avons accepté et où tu as transformé notre cœur. Merci parce que jour après jour, tu nous apprends à mieux te connaître, à plus t'aimer. Merci pour cette transformation complète et que tu continues jour après jour à faire entre nous, à faire en nous. Seigneur, je te prie que cet après-midi, si quelqu'un n'avait pas encore expérimenté cela, je te prie que si quelqu'un n'avait pas encore compris que tu l'aimes, que tu es le Fils de Dieu, je te prie qu'il fasse cette expérience cet après-midi. Alors que nous sommes dans la prière, je demande aux chrétiens, aux frères et sœurs qui ont fait cette expérience de prier, alors que nous sommes dans la prière, je vous demanderai à vous, qui voulez dire comme Paul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?»« Seigneur, oui, je veux que tu changes ma vie. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis malheureux. J'ai compris que vivre sans toi n'est pas la solution. J'ai compris que je suis pécheur. Je ne veux plus être séparé de toi. Je veux être sauvé. » Si quelqu'un voulait accepter la main tendue de Jésus cet après-midi, si quelqu'un voulait accepter son amour, eh bien, manifestez-vous devant Dieu. Pas devant moi, pas devant une église. Non, manifestez-vous devant Dieu, parce que par son esprit, il est là. Et manifestez-vous devant lui. Levez la main, levez-vous à votre place. Dites-lui, « Oui, Seigneur, moi, que veux-tu que je fasse ?»« Oui, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. » »« Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me sauver. J'ai besoin que tu me changes et que tu me transformes. » Levez-vous à votre place, levez votre main. Si quelqu'un veut être sauvé cet après-midi, qu'il fasse cet acte de foi. Levez-vous à votre place, levez votre main, et Jésus le fera. Jésus est celui qui transforme l'âme, mais Jésus est aussi capable de transformer les corps. Ne pensez-vous pas que lorsqu'il a guéri le paralytique, le corps a été transformé? Ne pensez-vous pas que lorsqu'il a guéri l'aveugle, que lorsqu'il a guéri la femme à la perte de sang, le corps a été transformé. Si quelqu'un cet après-midi veut que Jésus intervienne dans son corps parce qu'il est malade, parce qu'il a besoin de lui, eh bien vous aussi, manifestez-vous face à Jésus. Levez la main, levez-vous et croyez qu'il va intervenir. Croyez que Jésus est celui qui peut vous transformer, qui peut transformer votre corps comme il est celui qui est capable de transformer votre intérieur. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie, pour ceux qui se sont levés, pour ceux qui ont levé leurs mains, pour ceux qui ont fait cet acte de foi, tu les aimes, tu es mort sur la croix pour eux, tu as porté leurs péchés, tu as porté leurs maladies, et dans le nom de Jésus, parce que nous n'avons rien d'autre pour nous présenter devant toi que ce nom de Jésus, que ce sacrifice à la croix. C'est nous n'avons aucun mérite. La seule chose que nous ayons à te présenter, c'est nous, mais couverts par le sang de Jésus. Alors dans le nom de Jésus, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous te prions pour ceux qui se sont levés, te demandant de les sauver, te demandant de les guérir. Dans le nom de Jésus, tu le fais maintenant. Tu réponds à leur foi. Tu réponds à leur acte, à leur pas de foi. Seigneur, s'il te plaît, tu le fais maintenant. Dans le nom de Jésus, amen.